Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être nombreux à l'écoute de cette édition du journal sur Radio Kapi. Voici le grand titre de ce soir. Guerre d'agression contre la RDC par le Rwanda. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, appelle le journaliste congolais à lutter contre toute forme de manipulation et de désinformation. Il exhorte également le peuple congolais à se mobiliser pour reconquérir les territoires occupés par le Rwandais et leurs alliés M23. En Ituri, l'horreur continue. Plus de 1300 personnes massacrées par le rebelle des ADF. Une centaine d'autres ont disparu en 2024 dans les territoires de Mambasa. Ces chiffres alarmants révélés samedi par l'ONG, Convention pour le respect des droits de l'homme, soulignent l'urgence et la gravité de la situation. Les conflits entre enfants, un quotidien normal. Comment gérer les tensions à la maison? Pour en discuter, nous recevons Erickson Mupanda, psychologue et enseignant à l'Université chrétienne bilingue du Congo. Il est notre invité. C'est tout pour les titres. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, appelle à l'unité nationale. Il exhorte tous les journalistes congolais à combattre la manipulation et la désinformation dans cette guerre médiatique. Lors du briefing hier à Kinshasa, il a incité tous les Congolais à se mobiliser pour reconquérir les territoires occupés par le Rwandais et leurs alliés du M23. Il a également promis de détailler les mesures du gouvernement permettant à chaque citoyen de contribuer à la restauration de l'intégrité nationale. Les propos de Patrick Muyaya, recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Les journalistes qui êtes déjà pleinement mobilisés, on va travailler avec vous pour être sûr que nous passons les bons messages. Non seulement les journalistes, mais nous avons aussi des influenceurs, tous ces compatriotes qui se battent derrière leur clavier pour s'assurer que notre intégrité territoriale est préservée. Nous allons travailler avec les communicateurs, nous allons travailler avec tout le monde, parce que ça c'est une guerre qui concerne tout les Congolais. Il y a des efforts qui seront faits. On reviendra avec les détails que nous recevrons du ministère des Budgets et des Finances sur ce qui sera prélevé comme effort de guerre. Et nous allons aussi revenir sur le mécanisme que nous mettrons en place pour que chaque Congolais, avec ce qu'il a, puisse contribuer pour que nous puissions, derrière le président de la République, être prêts à restaurer l'intégrité de notre territoire. Je rappelle que nous avons le front militaire, nous avons le front diplomatique, nous avons le front économique, le front judiciaire, le front spirituel, et les fronts de la santé que le ministre a rajouté. Mais je vais beaucoup insister sur le front médiatique, parce que là aussi, nous faisons face à une guerre informationnelle. Vous savez qu'en face de nous, nous avons l'empire du mensonge qui opère avec des supplétifs dans les domaines qui sont les nôtres. Nous comptons sur vous pour barrer la route à toute forme de manipulation et de désinformation.
Sur le terrain à Goma, les rebelles du M23, soutenus par leurs alliés rwandais, s'attaquent aux entreprises et établissements publics de l'État. Selon des sources locales, ils ont pillé ce samedi le bureau du Fonds de promotion de l'industrie FPI en portant une camionnette à un coffre-fort. Ils ont également volé deux véhicules Land Cruiser appartenant à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le responsable des entreprises publiques dénonce ces actes et affirme vivre dans la clandestinité. Écoutons l'un d'eux, joint par Grâce Hamzati.
Nous avons assisté à un pillage au niveau du bureau provincial du Fonds de promotion de l'industrie où les camionnettes de M23 sont entrées dans l'enceinte du FPI. Ils ont cassé la grande porte, ils sont montés au-dessus, ils ont cassé la porte de la caisse, ils ont emporté avec eux les coffres forts pour une destination inconnue. À l'intérieur, il y avait 7 500 $ et 4 millions de francs. L'argent qui a été pour une collation des agents ou une prime des agents, cet argent est parti. Également, la camionnette du FPI a été emportée. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a amenée. Nous dénonçons ces comportements des soi-disant libérateurs. Aujourd'hui, beaucoup de responsables des entreprises publiques, ils sont cachés. Ils ne savent même pas se tenir ou même pas sortir de leur cachette de peur qu'ils soient tués lâchement comme on a tué plusieurs. Voilà pourquoi nous dénonçons, nous lançons ces cris d'alarme que la communauté internationale et celle nationale puissent venir en aide au niveau des Goma à ce qui se passe, les mots, et nous pouvons dire, c'est du carnage.
Et puis, la CENI exige la libération immédiate de ses agents du secrétariat exécutif provincial du Nord Kivu retenus en otage par des éléments de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23. Dans un communiqué daté du 30 janvier, elle dénonce également le pillage des installations de son bureau provincial du Nord Kivu par ces mêmes éléments, des véhicules et motos neuves et usagés ainsi que des kits électoraux stockés à Goma ont été emportés vers le Rwanda. La CENI condamne fermement ces actes et en informe l'opinion publique. 6 jours déjà depuis que le M23 occupe la ville de Goma au Nord Kivu. Quelle est la situation sur place? Selon nos informations, la ville commence à retrouver son dynamisme après plusieurs jours de paralysie causée par le combat entre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et les FARDC. Ce week-end, seules quelques détonations sporadiques ont été entendues dans la partie nord de la ville où subsistent encore quelques poches de résistance. Mais à quoi ressemble Goma aujourd'hui? John Tsongo, un acteur local, a parcouru la ville ce week-end et nous partage ses observations au téléphone avec Grace Amzati.
J'ai essayé de relier quand même le centre-ville. Je suis passé par l'aéroport. Le chemin était en tout cas calme, fréquenté. Il y a aussi un retour de la circulation des engins, des locomotives de casque bleu. Au centre-ville Birere, il y a quand même les vendeuses et les vendeurs des vivres qui avaient pris le courage de rouvrir, mais les magasins, ce n'était pas le cas. La ville était quand même timide. Il y a observance un peu partout, des parts et d'autres de la chaussée, soit des douilles des cartouches, soit des cartouches ou des effets militaires abandonnés, ça et là. La journée du samedi a été par exemple marquée par des travaux communautaires d'Isalongo. La population s'est mobilisée pour essayer de ratisser la ville qui était déjà sale. Au centre-ville, on a constaté par exemple beaucoup de traces des balles, résultat n'est-ce pas du pillage. Le mouvement est aussi pareil. Au centre-ville, il y a toujours des effets militaires qui sont observés. Il y a aussi certains opérateurs économiques qui commencent à réparer un peu tout ce qui a été saccagé, les portes métalliques qui ont été saccagées. Alors c'est dimanche, les églises, certaines bien sûr, auraient pris et le mouvement est devenu plus ou moins normal et nous espérons que ça sera pareil le lundi.
Restons au Nord Kivu, plus précisément à Lubero, dans la partie nord de la province. Le passage d'un convoi de rebelles du M23 a sémé une grande panique samedi après-midi à Kasseye, une localité située à environ 50 km au sud de Lubero centre. Selon la société civile locale, cette colonne de véhicules militaires transportant de rebelles du M23 s'est dirigée vers Alimbongo. Par conséquent, certains habitants ont commencé à quitter la région pour retourner à Kirumba, d'où ils étaient partis il y a à peine 2 semaines. C'est dimanche, un calme relatif règne dans la région, mais la psychose persiste parmi la population majoritairement composée de retournés. Nos tentatives pour obtenir une réaction de l'autorité territoriale et de l'armée n'ont pas abouti. Comme indiqué dans le titre en Ituri, plus de 1300 personnes ont été massacrées par les rebelles des ADF et une centaine d'autres ont disparu en 2024 dans le territoire de Mambasa. Ce chiffre alarmant a été révélé samedi par l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, dans son rapport de suivi des violations de droits de l'homme dans cette région. Cette organisation de la société civile exhorte le gouvernement à mettre fin aux atrocités commises par ces groupes armés qui causent des conséquences humanitaires désastreuses. Isaac Remoyope.
Ces rapports de monitoring se fondent sur des données recueillies par les membres de cette ONG installée dans presque toutes les principales agglomérations du territoire de Mambasa. Il fait état des 1322 morts enregistrées l'année dernière pendant les attaques des ADF dans les différentes localités de ce territoire, surtout dans la chefferie de Babila-Babombi, à la limite avec le Nord Kivu. 103 personnes sont portées disparues et des dégâts matériels importants, dont les incendies d'une trentaine de maisons et des 10 motos, ont été également enregistrés en 2024 dans les territoires de Mambasa, poursuit la CRDH. haches. À cela s'ajoutent des pillages des biens et des produits des champs des habitants, dont la plupart ont trouvé refuge dans des milieux sécurisés, indique son coordonnateur Rams Maliki Dogo. Selon ces derniers, la situation humanitaire de ces personnes qui sont souvent en déplacement est préoccupante. Cette structure lance un appel au gouvernement en vue de démanteler ces groupes armés du territoire de Mambasa, mais aussi de mettre fin aux violations des droits de l'homme par des services de sécurité et des hommes armés non identifiés. Elle dénonce notamment des cas d'arrestation arbitraire et des vols à main armée ou encore des viols. Nous avons tenté avant de joindre l'administrateur du territoire de Mambasa, Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le porte-parole du gouvernement congolais a assuré samedi que le déploiement du contingent ougandais dans le grand nord de la province du Nord Kivu est fait dans le cadre des opérations militaires conjointes. Patrick Muyaya a fait cette précision lors du briefing de presse hier à Kinshasa. Il répondait à une question de la presse qui rapportait la psychose des populations des territoires de Beni et Lubero qui redoutent de voir ces militaires de l'UPDF tourner leurs canons contre elles. Le propos de Patrick Muyaya, recueilli par Blaise Ndongala Mayanda.
Au-delà justement de tout ce que nous pouvons avoir comme point à éclaircir dans la relation avec l'Ouganda, mais nous avons une opération conjointe entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les IPUDF. Et dans les cadres de ces opérations, lorsque nos militaires et les leurs s'engagent sur les fronts, ils décèdent ensemble, ils meurent ensemble, ils prennent des coups ensemble. Et donc, il faut considérer que les contingents, le matériel qui a été vu dans cette partie du Grand Nord, l'a été dans les cadres des opérations convenues. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, il y avait la visite justement à Beni du chef d'état-major ougandais qui est venu faire le point de la relation et des opérations spécifiques que nous menons avec l'autre partie congolaise. Donc il faut rassurer les populations congolaises que ce qui se passe dans le Grand Nord est bien circonscrit et que, au niveau du ministère des Affaires étrangères, si on a besoin d'avoir des éclaircissements sur des mouvements ou des soupçons, cela se fait.
Sachez que les forces de l'armée ougandaise opérant aux côtés des FARDC dans la lutte contre les ADF ont renforcé leur présence dans les territoires de Lubero samedi. Selon le porte-parole des opérations militaires dans le Grand Nord Kivu, la présence de UPDF dans les territoires de Lubero s'inscrit dans la poursuite des opérations militaires conjointes lancées depuis le 30 novembre 2021 contre les rebelles des ADF. Le colonel Makazukai a précisé dans un communiqué de presse publié ce dimanche que les militaires des armées congolaises et ougandaises sont déployés dans les territoires de Beni et de Lubero au Nord Kivu ainsi qu'à Mambasa et Irumu dans la province de l'Ituri. Au Kasaï oriental, plus de 100 vendeurs de planches du grand marché Bakadianga dans la commune de Dibindi doivent désormais poursuivre leurs activités commerciales au marché Ouitrafa dans la commune de Mouya. Cette décision, contestée par plusieurs vendeurs, vise à réduire les embouteillages et les accidents sur l'avenue Inga, selon le maire de Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Les planches sont généralement vendues non loin de l'endroit appelé Kanyanya au grand marché Bakwadianga. D'après plusieurs observateurs, les transporteurs de planches par véhicule créent des accidents à cet endroit suite au stationnement des camions qui déchargent cette marchandise sur l'avenue Kalonji. C'est depuis la semaine dernière que le maire de la ville a annoncé sa décision de délocaliser les vendeurs de planches vers le marché Ouitrafa. Les réactions de ces derniers n'ont pas tardé. Écoutons Didier Odia, président du comité des vendeurs de planches au grand marché Bakwadianga.
Nous ne refusons pas, nous avons accueilli la nouvelle avec enthousiasme, mais quand nous sommes arrivés sur place, nous avons estimé que l'espace est étroit et qu'il n'y a pas moyen d'installer le moteur. Nous avons dit aux responsables d'agrandir l'espace.
Pendant que d'autres traînent le pas, un petit groupe de vendeurs de planches s'est installé au marché Ouitrafa. Esther Nalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Face à Israël et les États-Unis, l'Iran a de nouveau montré ses muscles en dévoilant un nouveau missile de précision, mais aussi une base souterraine le long du golfe Persique. Samedi, la télévision iranienne a en effet montré une nouvelle base de missiles le long portée du golfe Persique avec des missiles d'une portée de 1000 km qui sont capables d'atteindre des navires non seulement dans le golfe Persique et la mer d'Oman, mais aussi dans l'océan Indien. Le nouveau missile appelé Etamed ou Confiance en Persan a été montré pour la première fois en présence du président iranien. Ce nouvel engin a une portée de 1700 km qui est capable d'atteindre Israël ou les bases américaines dans la région. Ces nouvelles démonstrations de force intervient moins de deux semaines après la prise de fonction du président américain Donald Trump qui devait durcir les sanctions économiques et surtout pétrolière contre l'Iran, mais aussi à la veille de la visite du Premier ministre israélien aux États-Unis. L'Iran a également annoncé le lancement de deux nouveaux satellites dans l'espace d'ici à deux semaines pour montrer ses capacités militaires et spatiales. Face aux menaces israéliennes et américaines, Téhéran ne semble pas vouloir céder.
L'invité.
Les conflits entre enfants font partie du quotidien et c'est tout à fait normal. Mais comment gérer ces tensions à la maison de manière efficace et apaisante? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Erickson Mupanda, psychologue et enseignant à l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC. Il partagera avec nous ses précieux conseils et astuces. Restez avec nous pour cet échange passionnant avec André Kitenge.
Erickson Mupanda, bonjour.
Ah oui, bonjour, monsieur André Kitenge.
Quels sont les facteurs psychologiques qui peuvent contribuer au conflit entre frères et sœurs?
Ça, c'est une réalité très vraie, parce que il est dit toujours que les conflits sont inhérents à la vie humaine. C'est-à-dire, là où deux, trois personnes vivent, il faut aussi s'attendre à des conflits, à des tensions. Et donc, divers facteurs psychologiques peuvent influencer les conflits entre frères et sœurs. Parmi ces facteurs, nous citons le premier, nous voyons la rivalité. La rivalité, c'est un facteur qui peut influencer les conflits entre frères et sœurs. Ici, il faut faire mention à la compétition pour gagner l'attention des parents. Mais aussi, lorsque l'un des enfants se sent favorisé par les parents. Et cela peut déjà créer des tensions entre les enfants. Deuxième facteur, nous citons les traits de caractère qui sont différents entre les enfants. En famille, vous avez des enfants introvertis qui se caractérisent par l'introversion. Vous avez aussi des parents qui, plutôt ont des enfants, qui peuvent se caractériser par l'extraversion. Et des fois, ces deux caractères peuvent conduire à des malentendus entre les enfants au milieu de la famille. Il faut aussi dire à ces propos que la communication insuffisante de la part des parents envers les enfants peut aussi créer des tensions parmi les enfants.
Comment les différences de personnalité entre les enfants peuvent-elles influencer leurs interactions en famille?
La différence de personnalité entre les enfants, c'est un élément important qui peut déjà créer un dysfonctionnement au niveau des interactions entre les enfants. Il y a par exemple le fait que parmi les enfants, il y en a ceux qui développent des personnalités différentes de celles des autres. Il y a des enfants extravertis, comme nous l'avons dit auparavant. Ces enfants-là sont capables d'initier des conversations et exprimer leurs émotions. Ils sont capables de pouvoir établir des liens, alors que les introvertis se réservent. Ils ont besoin d'un temps relativement long pour s'exprimer. Et cela, parfois, peut être perçu comme un désintéressement de la part de ces enfants introvertis. Et ça peut être un frein pour les interactions parmi les enfants.
Nous avons parlé des facteurs psychologiques qui contribuent au conflit entre frères et sœurs, mais aussi les différences de personnalité qui influencent leur interaction. Quel rôle jouent les dynamiques familiales dans les tensions entre enfants?
Ah oui, là aussi, c'est très important de revenir sur ce rôle-là Et donc, ces dynamiques familiales jouent un rôle crucial dans les tensions entre les enfants. La tension des parents vis-à-vis des enfants. Si un enfant se sent moins aimé, moins soutenu que ses frères et sœurs, ça peut causer la jalousie, ça peut causer la rivalité entre les enfants.
Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à développer des compétences de résolution de conflits?
Les parents ont un très grand rôle pour aider leurs enfants à acquérir la culture de résolution de conflits. À ce niveau, nous demandons aux parents de servir encore une fois d'exemple aux yeux de leurs enfants à résolver leurs propres conflits respectueusement et d'une manière saine. En deuxième lieu, les parents doivent créer un environnement dans lequel les enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations. En troisième lieu, les parents doivent aider les enfants à comprendre les sentiments des autres. Cela favorise l'empathie et diminue les tensions au milieu des enfants. Et enfin, nous pouvons demander aux parents d'indiquer la manière par laquelle les conflits doivent être gérés dans la famille à leurs enfants.
Erickson Mopanda, merci.
Erickson Mopanda, enseignant et psychologue, s'entretenait avec André Kitenge depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. C'est la fin de ce journal sur Radio Kapi, à la mise en onde d'Eps Vita, à la coordination Jude Mister Bilanda et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. N'oubliez pas de nous suivre, de partager vos commentaires et de participer à nos discussions. Bonne suite des programmes sur votre radio préférée.